Tamani.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Et c'est avec Mariam Maïga à la présentation, Mamadi Keïta assure la mise en onde. Voici les titres de l'actualité. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales ont démarré lundi à travers le pays. Cette année encore, des centres d'examen ont été délocalisés du fait de l'insécurité. Pour le référendum du 18 juin prochain, les Maliens ont la possibilité de voter avec la carte d'identité nationale, le passeport ou encore le permis de conduire. Cependant, avoir ces pièces est un vrai casse-tête. La Biennale artistique et culturelle du Mali est prévue du 6 au 16 juillet 2023 à Mopti. Environ 1600 invités sont attendus. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Une vingtaine de centres d'examen du diplôme d'études fondamentales DF ont été délocalisés cette année à l'intérieur du pays. Selon les autorités scolaires, les mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour que les candidats délocalisés dans les régions de Badjangara, Sikasso et Kouri fassent leur examen. Suivons ce reportage de Mariam Koulibaly avec le concours des correspondants.
Si la région de Sikasso a enregistré un seul centre délocalisé, le centre d'animation pédagogique de Kouri dans la région de Koutiala en totalise 10. Eya Bonkana Touré, directeur du CAP de Kouri.
Nous avons déplacé au niveau de Kouri, Lurikila et de Karangana certains centres. 929 candidats déplacés. Les prises en charge ont commencé depuis hier soir.
Au total, 3 centres ont été délocalisés au centre d'animation pédagogique de Badjangara. Ils sont au nombre de 52 élèves à Dougoumbo, 37 à Djombolo et 142 à Dourou, nous dit Lamine Traoré, directeur du centre d'animation pédagogique de Badjangara.
Le centre de Dougoumbo se déplace à Badjangara. Et ce centre est composé de Dougoumbo lui-même et de l'école de Gundaka. Ensuite, le centre de Djombolo, je veux dire, se déplace à Bayangara. Ce centre est composé de Djombolo et de Djikibongo. Aussi, un centre qui se déplace, c'est celui de Dobolo à Dourou.
Les parents d'élèves sont partagés entre l'inquiétude et la bonne tenue des épreuves. Amadou Sai, membre du comité de gestion scolaire à Badjangara.
Délocalisé ici, Dougoumbo et puis Djombolo étaient à ce niveau-là. Ils ont été accompagnés par leurs parents et il n'y avait pas quand même de difficultés, tel point où ils ne pouvaient pas composer à Suher.
Même situation dans la région de Koulikoro où les centres des communes de Sébété, Sébékoura et Sébékoro ont été déplacés à Banambaville.
Un reportage de Mariam Koulibaly avec le concours de nos correspondants. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. La carte d'identité biométrique sécurisée n'est plus l'unique document de vote pour le référendum du 18 juin. Les électeurs ont désormais la possibilité de voter avec la carte d'identité nationale, le passeport ou encore le permis de conduire. Cependant, l'acquisition de ces pièces d'identité est aussi un parcours de combattant dans plusieurs commissariats et gendarmeries des régions. Plus de détails avec Lale Tangara.
Cette mesure dérogatoire à la loi électorale a été prise par le gouvernement par ordonnance le 10 mai dernier au Conseil des ministres. Elle vise à pallier les contraintes liées à la production et la remise des cartes biométriques sécurisées avant le référendum. À Badjangara, le processus d'enrôlement pour la carte biométrique se poursuit. Mais selon le président de la jeunesse, de nombreuses communes de la localité n'ont pas procédé au recensement. Hamagindo ajoute également que des centaines d'électeurs de la localité n'ont plus de pièces d'identité du fait de l'insécurité. Au nord du pays, Cheikh Amaï Dati, le président du Recotrad de Direi, abonde dans le même sens. Il salue cette dérogation prise pour permettre aux Maliens de voter lors du référendum. Il déplore en revanche l'inaccessibilité de la carte d'identité nationale dans sa localité. Cependant, à la mairie de la commune 4 de Bamako, les agents distributeurs de la carte biométrique sécurisée regrettent le faible taux de retrait des cartes biométriques par la population. Ils soulignent que plusieurs cartes sont disponibles à leur niveau.
Sur un tout autre sujet, allons à présent à Mopti, le Mali. une histoire commune, une seule nation et un même destin. C'est le thème de l'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle. Après plusieurs années de suspension, revoilà la Biennale à Mopti dans le centre du Mali qui a été choisie pour abriter du 6 au 16 juillet 2023 cette édition de la Biennale. Où en sommes-nous donc avec l'organisation? Qu'en pensent les habitants de la Venise malienne? Quelles sont leurs attentes? C'est dans ce reportage de Mamadou Samasekou de retour de Mopti.
À Mopti, ils sont nombreux les habitants qui sont heureux d'accueillir cette biennale et cela malgré quelques soucis liés à l'insécurité.
C'est bien, on va développer un peu ce Mopti là, parce que Mopti est devenu moche là.
Est-ce qu'ils ont tenu compte du contexte sécuritaire?
Où en sommes-nous avec les préparatifs de ces rendez-vous culturels dont le lancement officiel a eu lieu le 31 mars dernier? Adama Traoré, directeur de l'action culturelle de Mopti, membre de la commission, nous fait le point de réglage.
On a fait une première et on a fait une deuxième réunion avec le gouverneur, c'était le président des sous-commissions. On a ciblé une dizaine de sites. Les gens sont engagés et puis vraiment, il y a de l'espoir.
La commission d'organisation précise aussi que des mesures sont déjà prises en cas de survenance d'éventuel délestage d'eau ou d'électricité sur les sites d'accueil. Moussa Tchakoura Koulibaly, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie de Mopti.
Pour les problèmes d'alimentation d'eau, d'assainissement, problèmes d'électricité sur les 10 sites retenus pour abréger les troupes, il n'y aura pas de problème de délestage ni de problème d'eau. Les dispositions seront prises par l'IDM et la Soumagep.
Selon les responsables de la sous-commission accueil, hébergement et mobilisation sociale, cet événement sera bénéfique tant sur le plan économique que culturel pour la 5e région du Mali.
Autre titre de l'actualité, elles sont nombreuses ces dames en âge avancé qui se rendent tous les jours sur les sites des marchés pour y vendre différents articles. Qu'est-ce qui pousse ces femmes malgré leur âge avancé et leur santé fragile à travailler? Elles avancent plusieurs raisons, notamment le manque de moyens ou la solitude. Mais pour les sociologues, ces activités ne sont pas sans conséquences sur leur santé morale et physique. Ami Sumbounou.
Sur plusieurs artères des rues de Bamako jusque dans les marchés, on peut y apercevoir ces femmes qui vendent toutes sortes de produits, des légumes frais ou des condiments. À la question de savoir pourquoi elles travaillent encore, les raisons sont multiples.
Moi, je viens au marché pour avoir de quoi manger.
Je viens au marché pour subvenir aux besoins de mes petits-enfants et avoir un peu d'argent de poche.
Je viens au marché pour me distraire, sinon je ne suis pas dans le besoin.
Je viens au marché pour oublier mes soucis.
Voilà.
Cependant, le regard de la société sur ces femmes est mitigé.
Certaines vieilles dames viennent au marché pour des raisons différentes.
La plupart des vieilles dames viennent au marché pour vendre par manque de moyens. Les enfants de certaines d'entre elles n'ont pas d'emploi.
Vraiment, moi, je préfère que ces vieilles dames restent à la maison.
Les sociologues sont catégoriques. Le travail de ces vieilles personnes est anormal, dit Dr Seydou Loire, sociologue.
Ce n'est pas normal parce que la personne se met en danger en réalité pour aller travailler à un certain âge. Mais souvent, ils n'ont pas le choix. Bon, il y a certaines vieilles personnes aussi qui le font par volonté, hein, tout simplement parce qu'ils ont envie de le faire. Avant, on ne voyait pas ça très souvent parce qu'il y avait le collectif et les vieilles personnes étaient couvertes en quelque sorte par la grande famille et n'avaient pas forcément besoin de travailler.
En attendant de trouver le juste milieu, ces vieilles dames continuent d'occuper leur place dans les différents marchés.
Ce jungle nous amène dans notre rubrique Zoom sur. On parlera aujourd'hui de la viande de chat à Tombouctou. Très prisée par les enfants, il n'y a pas de croyance particulière autour de cette viande selon des Tombouctouciens. Pour les enfants, c'est une viande comme toutes les autres. Notre reporter Hamsit Touré s'est intéressé au sujet.
Si le margouya est prisé par les enfants en milieu bambara à Tombouctou, les jeunes garçons se font un réel plaisir avec la viande de chat. Les grands moyens sont employés pour partir à la chasse de cet animal. Les bâtons et même les chiens sont dressés uniquement pour la circonstance. La viande de mouchi en soreille n'est pas consommée immédiatement. Elle est séchée pendant 3 jours et les jeunes prennent la peau et se promènent de maison en maison en fredonnant une chanson. Et ils reçoivent en retour des jetons, du riz, du sel ou même du jissima, communément appelé dakumu en langue bambara, feuille d'oseille en français. Le 3e jour après l'abattage, ils se retrouvent en plein air. La viande est préparée généralement avec du jissima et les meilleures parties sont réservées au chef de grain et son adjoint, c'est-à-dire le gigot. À Tombouctou, il n'y a pas de croyance autour de la viande de chat. Ici, on affirme que c'est une viande comme tant d'autres. Contrairement à certaines cultures, elle conjure les mauvais sorts.
Une chronique signée signé Hamsetou Touré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Vous pouvez retrouver ce journal sur la plateforme Viamo en appelant au 37 321. Vous pouvez aussi le retrouver ainsi que toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Mariam Koulibaly.
Les Maliens et les Maliennes sont convoqués le 18 juin prochain à se prononcer sur la nouvelle constitution.
Ce scrutin référendaire est un moment unique pour exprimer votre pleine citoyenneté.
Ne restez pas chez vous et laissez les autres décider à votre place.
Sortez massivement pour participer au référendum.
Participer au référendum vous permet de vous faire entendre et participer à la construction du Mali.
Pour ce scrutin référendaire, les Maliens devront choisir entre le bulletin blanc et le bulletin rouge.
Le bulletin blanc pour voter oui. Le bulletin rouge pour voter non.
Studio Tamani et ses partenaires
accompagnent le scrutin référendaire du 18 juin 2023.
Le contenu de la nouvelle constitution continue de susciter des réactions au sein de l'opinion nationale. Pour des analystes politiques et juridiques, plusieurs innovations ont été faites dans le nouveau projet de constitution. Un changement salutaire d'après eux. Cependant, le non-équilibre des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs contrarie. C'est dans ce contexte que le peuple malien est appelé le 18 juin prochain pour se prononcer sur le nouveau projet de constitution. Plus de précisions dans ce magazine Malikoura, réalisé et présenté par Aïssata Diarra avec la voix de Juliette Koulibaly.
Pour Ibrahim Khalil Touré, juriste, des aspects sont à revoir dans le nouveau projet de constitution, notamment le pouvoir attribué au président de la République jugé trop. Selon lui, le pouvoir judiciaire se retrouve étouffé dans cette constitution.
Il est le chef suprême des armées. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, il a le pouvoir de dissoudre de l'Assemblée, mais au-delà de tout ça, l'action gouvernementale, c'est lui qui le détermine, mais elle est conduite par le Premier ministre. C'est comme si le Premier ministre est juste là comme ça, sans aucun pouvoir. Les attentes étaient de vraiment amener un certain équilibre entre les pouvoirs.
Ismaël Yorodiko, de la Convention des juristes, estime également que le président a trop de pouvoir. Cependant, il trouve qu'il y a une innovation dans la Constitution pouvant empêcher le chef de l'État d'abuser de son pouvoir.
Pour le nouveau projet de Constitution, les pouvoirs du président vont jusqu'à 32 articles de la Constitution qui sont consacrés au président de la République. Mais il y a une innovation majeure, c'est que les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale aussi, peuvent mettre fin au pouvoir du président de la République s'il y a haute trahison. Vous voyez un peu, donc là, c'est vraiment un équilibre. Mais ça va toujours dépendre de la qualité, du courage et de la détermination des hommes et des femmes qui sont peut-être des présidents de la République ou bien des sénateurs ou des parlementaires.
Le manque d'équilibre entre le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif peut amener des frustrations. C'est en tout cas ce qu'estime Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Quand vous lisez la constitution du Mali, ça donne l'impression que comme nous avons un régime mixte, ça veut dire seulement un régime dans lequel il y a la séparation souple des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration obligatoire entre les différents pouvoirs. Mais dans la pratique, nous constatons que nous avons plutôt un régime présidentialiste de fait, c'est-à-dire tout simplement le président de la République, celui qui est hyper puissant, il écrase sur son passage toutes les autres institutions. L'idéal aujourd'hui, c'est d'aller vers le régime présidentiel à l'américaine. C'est un régime dans lequel l'exécutif est monocéphale. Le président de la République n'aurait plus le pouvoir de dissoudre le Parlement.
On aurait pu faire mieux, avoir une constitution osée, estime Pierre Claver Bakoroba Traoré, universitaire. Pour lui, donner trop de pouvoir à une seule personne peut être dangereux pour la démocratie.
Je constate que dans la nouvelle proposition de le nouveau projet de constitution, article 57, on voit que le président de la République nomme effectivement le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Il nomme les autres membres du gouvernement après consultation du Premier ministre et met fin à leurs fonctions. Un seul homme ou une seule femme avec autant de pouvoir à la tête de l'État, cela me paraît assez risqué pour la démocratie.
Par ailleurs, Plusieurs innovations ont été saluées par des analystes, comme la création d'une Cour des comptes, comme c'est le cas dans les pays de l'UEMOA. Ils ajoutent une autre innovation qui donne la chance aux Maliens qui ne sont pas contents du rendu de la justice de saisir le Conseil supérieur de la magistrature.